VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 5 janvier 2024, en direct de Washington, Rosine Monedzero. Pour commencer, les titres. Au Soudan, le gouvernement a rappelé son ambassadeur à Nairobi jeudi. Au Maroc, des milliers d'enseignants ont manifesté hier à Rabat pour réclamer une réforme équitable de leur statut. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et son homologue française, Catherine Colonna, ont échangé au téléphone mercredi sur le Moyen-Orient. Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement soudanais a rappelé son ambassadeur à Nairobi jeudi après que le président kényan William Ruto a reçu le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan. Les précisions de John Lyndon.
L'ambassadeur est rappelé pour des consultations en signe de protestation contre la réception officielle organisée par le gouvernement kényan pour le chef de la milice rebelle, a déclaré le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Ali Al-Sadiq, dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle Suna. Depuis le 15 avril, les forces de soutien rapide du général Daglo sont en guerre contre l'armée dirigée par son chef Abdel Fattah al-Burhan. Les combats ont fait plus de 12 000 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project, et plus de 7 millions de déplacés, selon l'ONU. Invisible durant la majeure partie de ce conflit et s'exprimant principalement par messages vocaux, le général Daglo s'est rendu ces derniers jours dans plusieurs capitales africaines, rencontrant des chefs de gouvernement en Ouganda, à Djibouti, au Kenya, en Afrique du Sud et en Éthiopie. Cette tournée a suscité la colère du chef de l'armée.
Dans l'entretemps, après une tournée en Afrique de l'Est, le général Mohamed Hamdan Daglo continue sa tournée en Afrique. Après le Kenya, M. Daglo s'est rendu à Pretoria, où il a rencontré jeudi le président Cyril Ramaphosa, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. J'ai eu des discussions fructueuses avec le président sud-africain sur les développements au Soudan et la guerre en cours, a posté M. Daglo sur X. Le général Daglo s'est rendu depuis fin décembre au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie et à Djibouti. Ses premiers déplacements officiels à l'étranger depuis le début du conflit au Soudan mi-avril. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé jeudi, juste avant minuit, la condamnation de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis. Pour diffamation, une peine largement perçue comme le rendant inéligible pour la présidentielle du 25 février. L'annonce a été faite par le juge Abdourahmane Diouf et confirmée par 2 avocats de l'opposant. On a confirmé la peine et les dommages et intérêts. Sonko a perdu sur toute la ligne. Il est maintenant totalement interdit de participer à une élection, a réagi après la décision d'avocat de l'État El Hadji Idiouf. Les avocats de M. Sonko ont esquivé la question concernant l'éligibilité de leurs clients. Au Mali, les militaires au pouvoir ont réceptionné jeudi une livraison de drones de Turquie lors d'une cérémonie en présence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. De fabrication turque, ces drones permettent de surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale, a dit dans un discours le maître de cérémonie s'exprimant au nom de l'état-major de l'armée de l'air. Des livraisons d'équipements militaires russes ont également eu lieu en mars et août 2022 et en janvier 2023. Au Maroc, des milliers d'enseignants ont manifesté hier à Rabat pour réclamer une réforme équitable de leur statut dans le secteur de l'éducation, perturbé depuis 3 mois par des grèves. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Dans l'unité et la solidarité, nous allons avoir gain de cause, ont scandé les manifestants en défilant de la principale artère de Rabat jusqu'au siège du ministère de l'Éducation nationale. Selon des chiffres du ministère, 50 000 enseignants sur 280 000 ont observé une grève de 2 jours, mercredi et jeudi, rejetant un accord trouvé entre le gouvernement et les principales centrales syndicales du secteur. Le statut des enseignants est à l'origine de la crise depuis octobre. L'exécutif s'est engagé fin décembre à accorder la qualité de fonctionnaire public à l'ensemble des travailleurs du secteur de l'éducation, répondant à la revendication phare de 140 000 enseignants, dits contractuels du secteur public recrutés depuis 2016. Le gouvernement a aussi annoncé une augmentation de près de 140 euros pour tous les enseignants dont le salaire moyen est d'environ 463 euros. Mais la Coordination nationale du secteur de l'éducation a rejeté l'accord. Les grèves perturbent depuis octobre la scolarité des 7 millions d'élèves du secteur public, soit 87% des apprenants marocains, selon les chiffres du ministère de l'Éducation.
Le gouvernement zambien a annoncé jeudi repousser de 3 semaines la rentrée scolaire initialement prévue le 8 janvier en raison de l'épidémie de choléra qui sévit depuis octobre dans ce pays, faisant 150 morts. Selon les derniers chiffres du gouvernement, la maladie a contaminé plus de 4000 personnes et fait 150 morts, soit un taux de mortalité de 3,7%. Plus de 342 nouveaux cas ont été détectés au cours des dernières 24 heures et 23 décès constatés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un procès exceptionnel va s'ouvrir lundi en Suisse. Ousmane Sonko, un ancien ministre de Gambie, sera jugé pour crime contre l'humanité au nom de la justice universelle. L'audience se tiendra devant le tribunal pénal fédéral à Bellinzona et c'est la première fois que cette notion de crime contre l'humanité est abordée en première instance. Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur gambien, est le plus haut responsable étatique jamais jugé pour des crimes internationaux sur la base de la compétence universelle en Europe, a souligné l'ONG Trial International à l'origine de la procédure. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et son homologue française Catherine Colonna ont discuté de mesures visant à éviter l'escalade au Liban et en Iran après des attaques dans ces deux pays du Moyen-Orient, a fait savoir le département d'État américain hier, Jacques Aristide.
Selon un communiqué du porte-parole Matthew Miller, Anthony Blinken et Catherine Colonna ont échangé au téléphone mercredi de l'importance de mesures visant à prévenir que le conflit à Gaza ne s'étende, à faire baisser la tension en Cisjordanie et à éviter l'escalade au Liban et en Iran. Le secrétaire d'État américain a mis le cap sur le Moyen-Orient pour une nouvelle tournée régionale avec une étape prévue en Israël au moment où les craintes d'une escalade régionale de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien augmentent. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a pour sa part appelé Israël à éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban, après que le numéro 2 du Hamas, Saleh al-Arouri, a été tué dans une attaque attribuée à l'État hébreu sur la banlieue de Beyrouth. Un responsable américain de la défense indique qu'Israël a mené cette frappe. Par ailleurs, le groupe État islamique a revendiqué hier l'attentat qui a fait 84 morts en Iran la veille, près de la tombe du général Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, dont le pays commémorait la mort en 2020, accentuant encore les tensions régionales.
Par ailleurs, Israël continue vendredi de bombarder la bande de Gaza, dont le futur après la guerre fait l'objet pour la première fois d'un plan, lequel ne prévoit ni le Hamas ni une administration israélienne pour gérer ce territoire ravagé par des frappes incessantes. Quelques heures avant le départ du secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le Moyen-Orient, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a dévoilé son premier plan au sujet de la guerre à Gaza. Selon le plan, les opérations à Gaza vont se poursuivre jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et l'élimination des menaces militaires, a soutenu M. Gallant. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à accroître la production de lanceurs de missiles lors d'une visite dans une usine d'armement, et ce, en préparation d'une confrontation militaire avec la Corée du Sud et les États-Unis. Le point avec Michel Joseph.
Lors de sa visite dans une usine de systèmes de lancement de missiles balistiques, le dirigeant a félicité des responsables de l'établissement, affirmant qu'ils avaient déjà dépassé l'objectif de production de lanceurs de missiles fixé par des responsables du parti en 2023, a rapporté vendredi l'agence d'État KCNA. De telles usines d'armement sont essentielles pour renforcer les capacités de défense de la Corée du Nord, a insisté Kim Jong-un. La Maison-Blanche a, elle, accusé jeudi Pyongyang d'avoir fourni à la Russie des missiles balistiques et des systèmes de lancement utilisés lors des attaques d'envergure des derniers jours contre l'Ukraine. Les missiles fournis par Pyongyang ont été lancés par les forces russes vers l'Ukraine le 30 décembre et le 2 janvier, a précisé le responsable américain. La Russie et la Corée du Nord, alliés historiques, sont toutes deux soumises à des sanctions internationales, la Russie pour son invasion de l'Ukraine et la Corée du Nord pour ses programmes interdits d'armes nucléaires et de missiles. En 2023, la Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais de missiles balistiques en violation de nombreuses résolutions de l'ONU le lui interdisant.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Togo, la clôture de l'appel à projet de recyclage des déchets à Lomé est repoussée d'un mois au 15 février et les résultats du concours seront annoncés le 5 avril. Il s'agit de valoriser les déchets fermentables. Lomé et ses environs visent à transformer au moins 10 000 tonnes de déchets annuellement. L'appel s'inscrit dans le cadre d'un projet d'environnement urbain appuyé par l'Agence française de développement. Au Cameroun, à partir du 10 janvier, les droits d'enregistrement et de timbre sur les mutations des véhicules d'occasion importés seront déclarés et payés dans le système d'information douanier, a indiqué le ministère des Finances. Payés via le système informatique de la Direction générale des impôts depuis 2017, ces droits le seront désormais à travers un nouveau système de dédouanement électronique. L'Institut africain des sciences mathématiques en Afrique du Sud a ouvert les candidatures du programme Intelligence artificielle pour la science dans le cadre d'un master en sciences mathématiques. Des bourses d'études couvertes par Google DeepMind prennent en charge le transport aérien, l'hébergement, les frais de scolarité de recherche et l'assurance maladie. Les inscriptions en ligne doivent être soumises avant le 29 mars.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour à tous.
Dotation record pour le vainqueur de la CAN 2023.
Oui, l'équipe gagnante de la Coupe d'Afrique des Nations va recevoir une dotation record de 7 millions de dollars. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Fédération africaine de football. C'est 40% de plus que ce qui a été attribué au Sénégal lorsqu'il a remporté l'édition 2021, disputée au Cameroun. Le deuxième de la compétition, qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, va recevoir 4 millions de dollars. Les demi-finalistes percevront 2,5 millions de dollars chacun. La CAN verra s'affronter 24 nations, dont le pays hôte et l'Égypte, qu'il a déjà remporté 7 fois, un record. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, à Abidjan.
Kelechi Iheanacho va rejoindre le Nigeria cette CAN.
Blessé, la star de Leicester City rejoindra la semaine prochaine le reste de l'équipe du Nigeria pour la CAN, selon l'annonce faite par le président de la Fédération nigériane de football. Kelechi Iheanacho souffre d'une blessure musculaire, mais le président de la Fédération nigériane de football, Ibrahim Goussaou, a déclaré que le joueur se rétablirait bien. Le président de la fédération a salué le soutien du gouvernement nigérian dans la quête du pays pour remporter un quatrième titre continental. Il a aussi exprimé son optimisme quant à la capacité de l'équipe à faire honneur au Nigeria en Côte d'Ivoire. « J'ai confiance en l'équipe », a-t-il déclaré, logé dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire justement. La Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale, les Super Eagles, débutent leur campagne le 14 janvier face aux Équato-Guinéens à Abidjan.
2000 supporters de l'Algérie n'opéreront que 50% de leurs billets d'avion pour aller à la CAN.
Près de 2000 supporters algériens désirant assister au match des Fenech durant la CAN en Côte d'Ivoire ne paieront que 50% du coût du billet d'avion, le reste étant pris en charge par l'État. L'annonce a été faite par la Fédération algérienne de football. Un communiqué de la Fédération affirme que cette mesure du président Abdelmadjid Tebboune traduit sa volonté de rapprocher les supporters de leur équipe durant ces matchs. Le sélectionneur Jamel Belmadi a dévoilé vendredi dernier la liste des 26 joueurs retenus pour défendre les couleurs de l'Algérie à la CAN, où elle évoluera au premier tour dans le groupe D avec l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Mounezelo de retour avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un des candidats à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo a saisi la Cour constitutionnelle, de même qu'un autre citoyen, pour demander l'annulation des résultats de cette élection qui était couplée aux législatives et aux locales pour de nombreuses irrégularités. La conférence épiscopale catholique ainsi que l'église protestante ont également demandé de leur côté à la même Cour de tenir compte des irrégularités. Eddy Sango, adjoint à Kinshasa, le professeur Jacques Njoli, en droit public de l'Université de Kinshasa.
La CENI a des résultats, mais la CENI travaille dans un cadre contextuel et des défis qu'elle avait déjà défis au départ. Les défis politiques, les défis sécuritaires, les défis logistiques, les défis financiers. Les élections se sont tenues le 20, il faut se prononcer après sur les décisions de la CENI encore. Maintenant, on est dans la phase de collecte de résultats, de transmission pour compilation. Je crois qu'il y a ces défis logistiques, mais il y a aussi ces verrous, le temps qui est facteur déstructurant de cette articulation. Donc, nous espérons que, comme il y a eu la publication de l'élection présidentielle avec ces lots de l'annonce de la date du 20 décembre et du 31 décembre, nous espérons que très rapidement, on va aussi donner les élections, les résultats des élections législatives, nationales, provinciales et municipales.
Maintenant, il y a la CENCO, la conférence épiscopale des évêques catholiques, mais aussi l'église protestante qui ont dénoncé des irrégularités et qui se sont adressées à la Cour constitutionnelle. Il y a aussi, je crois, un candidat et une autre personne qui ont demandé que même les résultats de la présidentielle soient annulés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Cour constitutionnelle?
Je ne peux pas préjuger du travail du sage de la République. Je n'ai pas lu le contenu de la requête du professeur Théodore Goy, qui a, je crois, obtenu en hôpitaux sérieux de quelques pourcents de voix. En ce qui concerne la CECO, il est important de noter qu'elle avait dit elle-même que oui, il y a eu des résultats. Il y a un candidat qui s'est manifestement distinguer les autres, il y a des irrégularités, mais il ne faudra pas oublier que dès le départ, la CENI avait dit qu'elle avait travaillé avec 4 mois de retard et que s'il fallait respecter le délai constitutionnel, il y aurait sûrement des problèmes. Et moi, je voudrais que vous puissiez intégrer que le temps est un facteur déstructurant pour le respect de tous les standards d'une gouvernance électorale. Et que dès le départ, il était attendu, il y avait des défis majeurs en termes logistiques, sécuritaires, en termes politiques, en termes financiers. Donc, si nous voulons demain avoir des élections parfaites, il faudra qu'il y ait cette volonté globale, institutionnelle et non institutionnelle, de respecter notamment le temps.
Le professeur en droit public Jacques Njoli à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les déplacés et autres victimes des agissements de la secte Boko Haram au Tchad livrés à eux-mêmes sur le site de Kousserie 2, la pêche reste leur seul recours face au risque croissant d'attaque. C'est le constat de notre correspondant André Kodmandika.
Ces déplacés internes estimés à près de 4000 personnes sont installés sur le site nommé Koussiri 2 à quelques kilomètres de la ville de Bagassola, département de Kaya, depuis 2015. Ils ont été pris en charge par les humanitaires opérant dans la zone du lac au même titre que les réfugiés fuyant les atrocités de Boko Haram. Mais les choses sont devenues compliquées depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, comme en témoigne un partenaire humanitaire qui a requis l'anonymat.
Ça fait déjà 9 mois qu'ils n'ont pas reçu un coureur même de sorgho ni des assistances en cash. Ni les NFI, en tout cas les couvertures, les lénates. Et bien avant que Boko Haram apparaisse dans les lacs, ces gens que vous voyez vulnérables devant vous, là, ils étaient même des grands commerçants, des cultivateurs aussi, des éleveurs par excellence. Et maintenant, avec le problème de Boko Haram et les gangs, voilà, ils se retrouvent dans les sites.
Qu'est-ce que vous appelez gangs?
Les gangs, c'est les groupes armés non étatiques.
Les gangs, les groupes armés non étatiques, les hippopotames, les poissons ou encore les singes, ce sont les noms codé attribué aux éléments de la secte Boko Haram par les agents humanitaires dans la province du lac. Bien que décapité à en croire les autorités tchadiennes, cette nébuleuse qui opte pour une guerre asymétrique change toujours de stratégie.
Si on parle de Boko Haram, ils viennent en masse. Mais maintenant, c'est de couper des routes. On part dans un champ ou bien où là, on négocie des personnes, trois personnes, on enlève des femmes ou bien on enlève des hommes. C'est comme ça qu'ils font.
Et c'est le mode opératoire exercé sur les retournés du site de Koussiri 2 et bien d'autres personnes qui tente de se reconvertir dans la pêche pour sa survie, informe VOA Afrique, une autre source.
Là où ils partent pour pêcher, il n'y a pas la sécurité, il y a des gens qui les attaquent encore. Avant, là, ils font des incursions et puis des illusions. Maintenant, c'est dans la zone de culture ou bien dans la zone de pêche, ils partent. S'ils trouvent des gens, s'ils fuient, tant mieux. Dans le cas contraire, on te borge et puis on ramasse tout ce que tu as là. Ce mois de décembre, il y a eu quand même une attaque. Les 5 dans la zone de Koufoua, dans un village du nord du Kiron, dans la zone de Kangalam.
Il y a eu des morts.
Oui. Ils ont égorgé 5 personnes et puis 2 personnes aussi enlevées, et c'est des hommes.
Pour Abdoulaye Sall Ibrahim, délégué de la CENAR, la Commission nationale d'accueil des réfugiés et retournés, toutes ces attaques se passent dans les zones non contrôlées par le gouvernement tchadien.
Depuis le début de l'année, il n'y a pas encore eu une attaque d'un gang sur la terre ferme. Il y a seulement eu une seule attaque à Salia, ça c'est dans le Fouli. Mais dans la zone insulaire, il y a toujours des attaques. Généralement, les groupes qui attaquent beaucoup plus les pêcheurs qui bravent maintenant la zone rouge pour aller pêcher. Il y a un corridor de sécurité entre le lac et puis la terre ferme. Mais il y a des gens qui contournent ces camps militaires là pour aller sur le lac et aller pêcher. Et dans le lac, il y a encore quelques poches de résistance de ces gangs-là qui sont là.
Information confirmée par le préfet du département de Kaya. Hassan Agar a fait observer que les éléments des groupes armés non étatiques sont quelquefois des gens de la localité qui connaissent bien la zone. Ils font des incursions, enlèvent les personnes et volent plusieurs têtes de bétail de ces pauvres personnes en 2023. André Kordouma Djingar, de retour de la province du lac N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La ville de Gao a vécu les pires moments de son existence en 2012 après que les groupes armés se soient emparés des régions du nord du Mali. Pour asseoir leur domination, ils avaient commencé par détruire tout sur leur passage. Les écoles n'étaient pas épargnées. Des écoles étaient érigées en bases militaires et des tables bancs utilisées comme bois de chauffe. Amadou Sidi Touré, chef de division planification, examen et concours de l'Académie de Gao en 2012, président de la commission éducation, avait pris la décision de se battre pour sauver les écoles de Gao. Voici le reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Surpris par la tournure des événements, avec leur corollaire de violence, les élèves et les enseignants étaient contraints d'abandonner les écoles alors que nous étions seulement à quelques semaines des examens de fin d'année en 2012. Comment était venue cette belle initiative du retour des enfants à l'école? Amadou Sidi Touré, président de la commission éducation.
Je me suis senti interpellé. Et comme j'avais cette conviction qu'on pouvait organiser un jour les examens à l'intention des candidats, j'ai tenté d'organiser quelque chose à l'intention des candidats, donc au DF, au CAP, au BT et au baccalauréat. Le soir restait à l'époque que les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens de les transporter ailleurs pour aller faire des inscriptions. Pour ma part, je dis, c'était les moments les plus exaltants de ma carrière. parce que je me sentais utile à ma communauté.
Rien ne pouvait se faire à cette époque sans l'avis des maîtres des lieux. C'est ainsi que la commission éducation avait demandé aux élèves et aux enseignants de respecter la consigne donnée par les djihadistes.
Les djihadistes nous avaient effectivement demandé de ne pas mélanger les filles et les garçons, de faire en sorte qu'il y ait une classe de filles, une classe de garçons. Quand on ne peut pas faire une classe de filles et une classe de garçons, de faire juste une rangée de filles et une rangée de garçons. Nous avons reçu cette consigne, nous l'avons respectée.
Pour toutes les personnes interrogées sur ce dossier, Amadou Sidi Touré était une référence. Suivons ce témoignage.
Pour les fondamentales, pour l'enseignement technique professionnel, pour l'enseignement secondaire général, c'était Amadou Sidi la référence. C'est sous sa responsabilité que nous avons dressé les emplois du temps. C'est sous sa responsabilité que nous avons engagé les enseignants qui devraient tenir ces classes-là.
Amadou, il était d'abord le fonctionnaire cadre A, qui n'était pas obligé de rester. Mais pour, je ne sais pas, patriotisme, attaché à cette terre-là, il a décidé de rester.
Je remercie un homme, hein, sous son leadership, il a pu vraiment organiser beaucoup des enseignants. C'était Amadou Sidi qui a beaucoup fait dans cette bataille.
Nous retiendrons que la commission éducation créée en 2012 au moment de l'occupation de la région par les groupes armés a permis à plus de 3000 élèves à se présenter aux examens spéciaux de Sévaré la même année. De Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au lendemain de la mort d'un haut responsable du Hamas dans une attaque de drones israéliens à Beyrouth, des responsables américains ont déclaré qu'ils s'efforçaient de contenir la propagation du conflit entre Israël et le Hamas, tout en continuant à exhorter Israël à protéger les civils palestiniens. La correspondante diplomatique de la VOA, Cindy Sienne, nous en dit plus depuis Washington.
Le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Harouri, a été tué lors d'une attaque de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi, un assassinat ciblé qu'Israël n'a ni confirmé ni démenti. Au département d'État, mercredi, le porte-parole Matthew Miller a été interrogé sur la question de savoir si les États-Unis pensaient qu'Israël était justifié de tuer Harouri.
Je dirais que c'était un terroriste brutal qui avait du sang de civils sur les mains et je m'en tiendrai là.
Les experts craignent que cet assassinat ne déclenche une guerre régionale plus large au Moyen-Orient et ne fasse échouer les négociations pour la libération des 129 otages que le Hamas détient encore à Gaza. Brian Katoulis est vice-président chargé de la politique à l'Institut du Moyen-Orient. Il s'est entretenu avec la VOA via Zoom.
Je pense que cela risque de compliquer les efforts de négociation en vue de la libération des otages et d'un cessez-le-feu, car cet individu était un intermédiaire clé dans ces pourparlers. Il vivait auparavant au Qatar et je pense qu'il était considéré comme l'une des principales voies dans ce pays.
Israël a mené de nouvelles frappes aériennes mercredi dans la bande de Gaza, tandis que l'armée israélienne a déclaré qu'elle était en état d'alerte pour des attaques du groupe militant libanais Hezbollah à la suite de l'attaque du drone. Écoutons Mara Roodman, qui a été envoyée spéciale adjointe pour la paix au Moyen-Orient de 2009 à 2011. Nous l'avons jointe via Zoom.
Je crois que les dirigeants israéliens entendent, mais je pense qu'il y a des calculs politiques distincts à l'intérieur d'Israël, et en particulier de la part du Premier ministre qui a tout intérêt à maintenir son propre contrôle sur le gouvernement. Même si les derniers sondages montrent qu'il n'a, je pense, que 15% de soutien sur l'ensemble de la population israélienne, il cherche donc à apaiser les membres de droite de sa coalition afin de conserver son poste de Premier ministre.
La campagne israélienne visant à écraser le Hamas a laissé de vastes parties de la bande de Gaza en ruine. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, gouverné par le Hamas, a déclaré que l'offensive israélienne avait tué plus de 22 000 personnes. Israël a lancé son offensive après l'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas, qui a fait environ 1 200 morts dans l'État hébreu.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezero, à la mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h/24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.